France Inter.
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
Oui ou non? Deux petits mots de trois lettres, mais qui changent absolument tout. Cette notion de consentement, plus visible ces cinq dernières années, sur fond de mouvement MeToo, est devenue centrale avec le procès des viols de Mazan. La condamnation de Dominique Pellicot à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir drogué et violé sa femme Gisèle pendant 10 ans, en permettant à de nombreux autres hommes de la violer également alors qu'elle était inconsciente, a ouvert, de façon inédite, un débat sur le sujet. Le consentement pourrait bientôt être inscrit dans la loi, obligeant les agresseurs présumés à apporter la preuve qu'ils ont bien obtenu un accord avant tout acte sexuel.
A posteriori, cette personne ne voulait pas avoir un rapport sexuel, moi non plus, je ne voulais pas coucher avec elle. Il s'est trouvé que nous sommes retrouvés enlacés à avoir un rapport sexuel. Mais qu'a posteriori, finalement, c'était une mauvaise idée. C'est quelque chose que nous n'aurions jamais dû faire.
C'est une parole rare qu'Interception vous propose d'écouter. Celle des accusés, des victimes, mais aussi des adolescents confrontés de plus en plus tôt à cette notion de consentement. On démarre tout de suite dans les cortèges des féministes et de leur soutien. Jamais sans mon consentement, c'est un reportage de Sophie Parmentier.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter. 1, 2,
3. Le vent nous fasse en rage et brise en toutes ses cages. Debout, debout, debout.
Il y a une vingtaine de femmes qui se sont mises en cercle et certaines se tiennent la main en chantant. Sur leurs vêtements, il y en a qui ont accroché un « Merci Gisèle ». Avec un cœur. De Paris à Avignon, depuis des mois, dans les cortèges féministes, je vois les mêmes slogans. Mon corps, c'est mon choix. Éduque tes fils au consentement. Je vais m'approcher d'une jeune fille au visage enfantin. Elle est un peu à l'écart. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire, il y a quoi sur votre pancarte là ?
Alors, sur ma pancarte, il y a écrit « Il s'appelle Zachary, c'était mon copain, il m'a violée, j'avais 14 ans, la honte doit changer de camp. » Et de l'autre côté, il y a écrit « Céder n'est pas consentir. »
Vous vous appelez comment ?
Pauline.
Vous avez quel âge aujourd'hui ?
J'ai 19 ans, donc ça fait 5 ans. Du coup, j'étais en 3e et c'était mon copain, mon premier copain. Donc ma première découverte de l'amour, on va dire, et des relations sexuelles, du coup. Au début, ça n'était pas si compliqué que ça, parce que je pense que je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait, parce que ça a commencé dès le début de la relation et je suis restée quand même 6 mois avec. Parce que je pense que moi, du coup, je ne savais pas ce que c'était les rapports. Donc pour moi, c'était un peu la norme, entre guillemets.
Il avait votre âge ? Il était plus vieux que vous ?
Il avait mon âge. Il avait 14-15 ans, pareil. Et je pense que ce qui a été plus dur, c'est du coup la réalisation après. Quand je l'ai quitté, j'ai mis bien 2-3 mois avant de comprendre vraiment ce qui s'était passé. Et réussir à en parler aussi, parce que quand aucune de tes connaissances n'a eu de relation, etc., et que pareil, genre le premier petit copain en parlait à ses parents, c'est souvent un peu délicat, donc je savais pas trop comment en parler. Et après j'ai mis du temps avant d'accepter aussi le terme viol, parce que c'est un mot quand même très fort et qui veut dire beaucoup de choses. Donc je pense que le traumatisme, il vient plus du fait que j'ai mis du temps à en parler, que je suis restée seule là-dedans pendant très longtemps. Et que du coup, j'avais peur un peu de toutes les relations que je pouvais rencontrer, quoi.
Donc le consentement, c'est un mot qu'il n'a jamais prononcé. Et vous non plus ?
C'est ça. Parce que je pense que déjà, quand t'as 14 ans, le consentement, quand t'as pas de cours d'éducation sexuelle, etc., à comprendre, c'est pas forcément évident. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent du porno, dont lui. Et c'est vrai que le consentement, on n'en parle pas du tout à cette époque-là.
Il regardait du porno, votre petit copain ?
Oui, oui. Il regardait du porno, après il voulait que j'en regarde. Enfin, ça a été des abus un peu en tout genre. quand j'étais pas d'accord pour coucher avec lui, il faisait la gueule, il faisait du chantage en suicide, etc. Donc je pense que la peur, c'était plus dans ses réactions envers lui-même. Dans le sens où si je faisais pas ce qu'il voulait, bah, j'étais un peu la cause de sa mort, quoi. J'ai porté plainte un peu moins d'un an après. Je pense 9-10 mois après.
Et il y a eu un procès ?
Il n'y a pas eu de procès. Ça a été classé sans suite, sans confrontation, etc. Donc c'est vrai que le classement sans suite, j'ai pris un peu comme on ne te croit pas, t'es pas vraiment une victime aux yeux de la société.
Le combat continue, merci à vous.
Je m'appelle Élodie. Pour la manifestation Nous Toutes, c'est pour la troisième fois que je viens. Quand j'avais 17 ans, j'ai été victime d'agressions sexuelles et de tentatives de viol le jour de mon anniversaire par une connaissance. Et ça m'a beaucoup marquée. Et sur le moment, j'étais pas consciente de la gravité des choses. Et en fait, c'est en parlant autour de moi et à des associations notamment que je me suis rendu compte de la gravité. Et pendant très longtemps, je me sentais honteuse et je voulais pas en parler autour de moi. Et c'était très tabou. Et en fait, maintenant, en grandissant, je me dis que bah, c'était pas normal et que je méritais pas ça, quoi. Quand ça m'est arrivé, pour contextualiser, c'était en pleine nuit. En fait, c'était le jour de mon anniversaire et comme on était nombreux, on dormait à plusieurs dans la même chambre. Et je me suis retrouvée dans le même lit que cette personne. Et en fait, elle a commencé à avoir des attouchements à mon égard. Je lui disais non, non, et je le repoussais, mais malheureusement, il continuait. Et en fait, sur le moment, j'avais tellement peur que c'est comme si j'étais paralysée, j'arrivais pas à crier, j'étais vraiment tétanisée. Et le réflexe que j'ai eu et qui m'a sauvée, c'est tout simplement de me lever et de changer de pièce et d'aller dans une autre chambre où il y avait mes amis. Et en fait, il m'a pas suivie parce qu'il a senti que s'il me suivait, ça aurait été louche. Et heureusement que j'ai eu ce réflexe-là parce que sinon, ça aurait pu aller plus loin et ça aurait pu finir en viol, quoi.
C'était un homme ordinaire, un fils, un mari, un père. C'était un homme ordinaire, un fils, un mari, un père. Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés. Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés. Ainsi Gisèle, Gisèle, ou toutes celles qui subissent chaque jour leur violence.
J'ai décidé d'aller voir comment la notion de consentement est enseignée. Ce matin, on va entrer dans un collège de banlieue parisienne, à Saulé-Chartreux, dans l'Essonne, collège Pablo Picasso. J'ai rendez-vous avec une gendarme, adjudante-chef de la maison de protection des familles. C'est elle aujourd'hui qui vient parler de consentement devant les élèves en classe de 3e. Vous venez souvent dans cet établissement ?
On essaye d'y venir une fois sur l'année scolaire. On essaye de toucher tous nos collèges du département au moins une fois l'année. Moi, je suis l'adjointe-chef Mathieu Audrey. Est-ce qu'on vous a dit de quoi est-ce qu'on allait parler aujourd'hui ?
Non.
Non ? Personne vous l'a dit ?
Non.
Ok. Aujourd'hui, on va parler des violences dans l'intimité, qu'on appelle les violences sexuelles. Et donc, on abordera la notion de consentement. Ok ? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée sur ce qui peut être interdit par la loi ?
Ben... les garçons qui touchent les corps des filles, sans leur autorisation.
Ok. Alors, je vais rectifier un peu. Parce que c'est pas forcément les garçons. Il y a les filles aussi. Donc, quelqu'un qui toucherait le corps de l'autre sans son autorisation. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Est-ce que vous savez ?
Oui. Du viol.
Non !
Ah.
Le consentement. Non, des attouchements.
Ouais, c'est presque ça. C'est... non, mais attends, attends. C'est un très bon mot, d'accord ? Attouchement, c'est un très bon mot. C'est juste que, au niveau de l'infraction pénale que nous, on utilise, c'est pas tout à fait ça. C'est pas attouchement. On parle d'une...
agression sexuelle.
Voilà, d'une agression sexuelle, ok ? Du coup, si on doit faire une définition, on a dit que c'était le fait de...
toucher.
Toucher quoi ?
Les parties intimes.
Très bien. Les parties intimes. Sans
consentement.
son consentement, sans son autorisation. Comment est-ce qu'on sait si la personne, elle est consentante ou pas ?
Si elle nous dit oui, bah c'est oui, mais si elle nous dit non, c'est non.
Très bien. Donc, je dis oui ou je dis non. Je peux le montrer par des gestes. Et il y a une autre façon aussi de montrer si on est consentant ou pas. Quelle est la façon que vous avez, les jeunes, là, de communiquer aujourd'hui ?
Le téléphone.
Ah, donc ?
Appeler la police.
Un message.
Un message, que ce soit par les réseaux ou autre, hein. D'accord ? Peu importe la manière que vous aurez de transmettre votre accord ou votre désaccord, l'autre sera obligé d'en tenir compte. À partir du moment où vous n'avez pas de réponse, vous devrez prendre cette situation pour un non. Il faudra donc soit renouveler votre question, soit abandonner l'idée. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde ? La définition de l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, elle est punie par la justice de 5 ans. C'est pas très ouf, mon stylo. Et 75 000 euros d'amende pour celui qui ne respecterait pas ça. D'accord ? Quelles sont les autres infractions que vous connaissez qui peuvent être interdites par la loi ?
Le viol.
Ah, le viol. Qu'est-ce que c'est qu'un viol ?
C'est quand il y a une pénétration.
Très bien. Donc, effectivement, c'est un acte de pénétration, mais c'est surtout sans, encore une fois, le consentement de l'autre. Donc, on a dit, on peut pénétrer avec le sexe, avec les doigts, avec des objets. Et il y en a bien un autre que j'aimerais qu'on trouve.
C'est la langue.
Eh oui! La langue! Viol égale début de sanction à 15 ans de prison.
Oh my god!
D'accord?
Oui!
Elle a dit non, et tant qu'elle a pas dit oui, elle a dit non. Faut croire que t'es pas son type, tant pis non. Elle a dit, ça veut pas dire oui, elle a dit non. Et je crois que t'as pas compris. Elle a dit non, et tant qu'elle a pas dit oui, elle a dit non. Faut croire que c'est pas senti, tant pis non. Elle a dit, ça veut pas dire oui, elle a dit non. C'est quoi, t'as pas compris? En fait, les meufs, c'est pas un banquet, pas une banquette, pas une blanquette, pas une banque, ouais. Même si tu te persuades que tu restes au-dessus, mec, c'est des personnes, pas les restos du cul. Peut-être tu captes pas bien ou que t'as plus le son, mais franchement, t'as vraiment besoin d'une traduction. Elle a dit non, elle a dit non, elle a dit non, elle a dit non. C'est quoi, t'as pas compris?
Est-ce que vous en parlez entre vous, les garçons et les filles, du consentement ?
Non, pas trop.
Vite fait.
Quel âge vous avez tous ?
J'ai 15 ans.
15 ans.
J'ai 15 ans. J'ai 14 ans. C'est un peu un sujet délicat, en fait, à parler.
Bah, je sais pas, c'est gênant de parler des trucs comme ça.
Oui.
Tu trouves que c'est un peu tabou ?
Ouais, je dis pas ça devant les filles, je préfère dire ça à mes potes.
Et est-ce que vous avez appris des trucs aujourd'hui ?
Les lois qu'on devait respecter si la fille elle avait pas de consentement ou des choses comme ça.
J'ai appris aussi la différence entre préliminaire et acte sexuel.
Bah, par exemple, je savais pas qu'est-ce que c'était une fellation.
Mais je pensais que c'était un préliminaire alors que c'est un acte sexuel.
Là, on a conscience avec l'intervention de la gendarme que c'est beaucoup plus grave qu'un bisou ou un truc comme ça. Genre, c'est beaucoup plus profond, genre.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre parler des copains, des copines autour de vous, je ne dis pas forcément parmi vous, mais qui ont été victimes de violences et qui ont subi des choses sans leur consentement ?
Oui.
Tu peux nous raconter ce que tu as entendu, toi ?
Bah, c'est qu'en fait, elle était en couple avec un garçon. Et le garçon, il voulait faire avec elle, mais elle n'était pas trop d'accord. Mais le garçon l'a forcé. Du coup, elle a fait avec lui. Et c'était traumatisant. En plus de ça, si la fille a fait avec le garçon, c'est la première fois. Après, le garçon, ça se trouve, il va se vanter auprès de ses potes. Après, ça va faire une réputation. C'est trop dangereux.
C'est vrai. J'avais une amie avec qui je traînais en primaire. Aujourd'hui, je lui parle encore. Elle est au collège. Bah, ça a mal tourné. Enfin, on l'a filmé pendant qu'elle faisait un rapport, tout ça. Et la vidéo avait beaucoup tourné, du coup. Pendant presque toutes les vacances d'été, elle n'est pas sortie, rien du tout. On lui envoyait des messages et elle répondait pas.
Elle a quel âge ?
Non, elle a 14. Elle a juste un an de moins que nous. C'est vrai que nous avons une génération un peu fou, quoi. Enfin, ils se filment et tout. Enfin, moi, je prends mon temps. Si la personne voudra, moi, je préfère attendre un peu, que je sois bien à l'aise avec. Et, enfin, en tout cas, j'ai pas de pression. Enfin, elle ne me prend pas de coup de pression par mes potes ou je ne sais quoi.
Tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, quand quelqu'un dit non, bah c'est non. Et quand quelqu'un dit oui, c'est oui. Parce que ça peut faire des gros dégâts.
Est-ce que tu connais des gens qui ont été forcés sans leur consentement ?
Oui, ma sœur. Elle est ici, dans ce collège.
Elle avait quel âge quand elle a été forcée ?
13 ans, je crois. Oui, elle avait 13 ans.
Elle a été forcée par un camarade ?
Oui. Par plusieurs, même. Voilà.
Je vous montre un film qui est bien évidemment, pardon, un film de travail. Écoutez bien. Bien évidemment, vous ne verrez rien, d'accord ? Vous n'entendrez pas de mots grossiers, vous ne verrez pas de parties intimes, pas besoin de vous montrer une paire de fesses, je pense que tout le monde sait ce que c'est, d'accord ? Néanmoins, analysez bien la vidéo, regardez ce qui se passe, parce qu'il va y avoir un lien avec les infractions que nous avons vues. Ok ? Allez-y.
Je lui avais promis. Excusez-moi, c'est gênant de dire ça. Mais c'est la vérité, je lui avais promis qu'on le ferait pour la première fois ensemble. C'est vrai, j'avais envie. Alors on l'a fait. Et puis, quand c'était fini... Qu'est-ce que c'est ?
Bah, je t'ai dit qu'on allait retrouver les commandes.
Tu m'avais dit qu'il t'avait laissé sa chambre. Vous êtes qui, vous ? Qu'est-ce que
c'est là ? Tu m'aimes, alors tu le fais avec eux.
Mais ça va pas, non, mais là... Lâche-moi, mais qu'est-ce que tu racontes ? T'es fou ! Lâche-moi, non !
Eh, hey, tu l'as fait avec moi, tu le fais avec eux.
Ah non ! C'est pas une question si je lui pardonne ou pas. Il a été condamné parce que j'ai parlé. Et j'ai parlé pour plus être une victime. Plus être sa victime.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu là ?
Ouais, moi, ce qui m'a choqué, c'est le viol à plusieurs de la vidéo, parce que quand tu te mets à la place de la personne, ça fait super mal au cœur.
C'est vraiment pas cool.
En vrai, c'est choquant, parce que là, c'est qu'une vidéo, mais si ça arrive en réalité, c'est vraiment choquant.
Et bah, ça me dégoûte un peu d'être à plusieurs sur la même fille.
Même voir des copines de notre âge ou même qui se sont fait violer à 12 ans, 13 ans, c'est dur à entendre parce qu'on a l'impression qu'elles sont brisées toute leur vie en fait. Donc un viol, ça peut vraiment changer. C'est comme être mort de l'intérieur en fait, un viol.
Est-ce que ça va les jeunes, tout ce que je vous ai donné comme information là aujourd'hui ?
Oui.
Oui ? Alors je vous remercie. Merci pour votre participation.
Merci à vous.
Je sais que c'était pas évident pour vous, que c'est un sujet qui est délicat. Néanmoins, vous avez été à la hauteur de ce que j'attendais de vous. Continuez comme ça et prenez soin de vous.
Merci à vous aussi.
Ok ? Bonne journée les jeunes. Au revoir. Merci pour l'accueil.
L'intervention vient de se terminer. Vous vous adressez à des élèves qui ont presque 15 ans, c'est l'âge de la majorité sexuelle. C'est essentiel pour vous d'avoir ce discours préventif en amont.
Je trouve ça important parce qu'on se rend compte que ce sujet, il est très peu abordé, aussi bien par les parents à la maison qui peuvent être embarrassés d'avoir un ado, et même les établissements scolaires sont parfois dépourvus de moyens pour faire ce genre d'intervention. Donc là, la troisième, oui, enfin c'est, je pense qu'il y en a qui trouvent ça tôt encore, parce qu'ils sont gênés du sujet, mais pour moi, il est temps de le faire.
Vous vous adressez à eux avec des mots très simples, de manière très... Cache.
C'est important de ne pas cacher les mots. Je ne vais pas dire que je vais être crue dans mes propos, mais juste leur dire la vérité. Donc après, là, ils prennent conscience que c'est important de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je perçois l'autre aussi. Parce que quand on entend certains élèves, elle dit « moi, je serais capable de dire non, mais il faut aussi que l'autre écoute ». J'ai trouvé ça super, parce qu'en réalité, on a beau dire non du plus
plus fort qu'on peut, si l'autre en face n'entend pas, il fera quand même ce qu'il a envie de faire, qui est illégal.
Hey, Slim J.
Sans son consentement, tu l'as fait. Larme à la main, tu cries, elle se tait. Larme à l'œil, visage de monstre. Oh, 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 tu l'effraies. Sans son consentement, tu l'as fait. Larme à la main, tu cries, elle se tait. Oh, oh, oh.
Dans l'imaginaire collectif, un violeur, c'est souvent un inconnu, armé d'un couteau le soir dans une ruelle. Mais la réalité est totalement différente. Dans 90% des cas, l'agresseur connaît sa victime. Dans la moitié des cas, c'est son partenaire ou un ex-amoureux. Pour les jeunes, c'est la première année universitaire qui reste la plus dangereuse sur les campus. Une étudiante sur 10 est victime d'agression pendant ses études. Sans surprise, 91% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Même si la justice a évolué, les plaintes restent ultra minoritaires et sont très majoritairement classées sans suite. Les témoignages croisés que vous allez entendre au micro de Sophie Parmentier sont des paroles rares, celles d'un accusé et d'une victime qui est allée jusqu'au procès. Pour protéger son anonymat, nous avons transformé sa voix à l'aide d'intelligence artificielle.
Interception sur France Inter.
Vous préférez conserver votre anonymat, c'est ça ?
Oui, pas de prénom, juste un témoignage.
Votre âge peut-être ?
36 ans.
Vous avez porté plainte pour viol. Comment c'est arrivé pour vous ?
Le moment des faits, j'étais dans une situation de vie qui était un petit peu compliquée d'un point de vue professionnel, personnel, émotionnel. Et j'ai décidé d'aller voir un ami pour, en fait, juste sortir et sortir un peu le bout du nez. Cet ami était quelqu'un que je connaissais de longue date. Et ce soir-là, il a fait que me parler de mon ex-petite amie. Du coup, ça m'a mis encore plus dans une angoisse, vu que psychiquement, j'étais déjà assez atteinte. Et je pensais avoir un peu de réconfort dans une soirée. Ce soir-là, on a bien rigolé, mais à un moment, ça m'a gonflé. J'ai dit, je prends mes clics et mes claques. Et je rentre chez moi. Il ne fallait pas que je le prenne comme ça. On allait boire un dernier verre dans un autre bar. On boit un verre de gin tonic et puis en même temps, un deuxième verre. Je ne finis pas d'ailleurs. Et là, il m'embrasse et je me trouve un petit peu réactive. Je dis pas oui, je dis pas non. Je comprends pas trop. De toute façon, j'étais triste ou j'étais bourrée. C'est vraiment le terme. Et là, je me souviens qu'il envoie un message à mon ex qui dit « Je gère ton ex, connard ». L'autre lui dit « Bonne chance ». Et le premier souvenir que j'en ai, on est chez moi. Donc, j'ai pas de temporalité du trajet. J'ai pas de temporalité de comment on est arrivé chez moi. Alors sûrement, on va faire l'avocat du diable. J'ai dit, on va chez moi boire un dernier verre. Ce qui me ressemble pas mal parce que c'est un ami à moi. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et vu dans l'état où j'étais, il n'allait pas mieux que je rentre toute seule à la maison, où il fallait me mettre dans un taxi. Et le premier souvenir que j'ai, c'est de me sucer. Je dis non. Le deuxième, il est en moi. Il est sur moi. Et je lui dis non, je ne veux pas. Je ne peux pas. Et le troisième, c'est pourquoi tu m'as fait ça, en fait. Et je me retrouve pleurée et tremblante dans mes draps. Alors le problème, dans tout ce que je vous raconte des trois flashs, c'est que je n'ai pas de temporalité. Je ne sais pas ce qui m'a fait, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et on se réveille le matin et je ne comprends pas ce qui se passe. Il est enlacé autour de moi, il a la main sur mes seins. Et je me dis, mais je ne comprends pas. Je ne vais pas crier au viol parce que j'ai mis beaucoup de temps à dire le mot viol. J'ai même encore du mal à le dire actuellement parce que je n'avais pas envie d'être victime.
C'était il y a combien de temps ?
C'était il y a presque 5 ans.
Et pour vous, c'est toujours aussi douloureux ?
Je n'ai toujours pas envie d'y croire. En fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi on faisait ça. J'ai essayé de comprendre le fonctionnement. J'ai essayé de me dire, peut-être que j'ai fait quelque chose. Peut-être que c'est de ma faute. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'on soit en état d'ébriété, certes, on dit non. Comment on peut être plus clair? Je pense que je ne peux pas être plus clair que ça. Donc, abuser de quelqu'un et de son état psychique et physique, en fait, il n'y a pas de consentement. Il n'y a rien. On n'écoute pas mon consentement, c'est mon corps. Et puis on a abusé de tout. Et puis on a pris une partie de moi, en fait.
Vous pleurez souvent encore, 5 ans après?
Ça fait trop mal.
J'ai coupé le micro, je vais vous laisser sécher vos larmes.
Merci à vous.
Au palais de justice, le jour du procès, il y a 2 victimes sur un banc face à la cour criminelle. La deuxième décrit un viol par surprise, une nuit de fête, alors qu'elle s'était endormie en état d'ivresse. Elle aussi était amie de l'accusé. J'ai suivi ce procès pendant plusieurs jours, micro coupé, dans la salle d'audience. Le dernier jour, lors d'une pause, l'accusé a accepté de me livrer sa version. On s'assied ici?
Ouais.
On est dans une salle juste à côté de la salle d'audience où vous venez d'être interrogé pendant plusieurs heures par la cour.
Ouais, ah ouais. Mais c'était long, mais c'était bien de pouvoir dire ce qu'on avait à dire.
D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on donne votre prénom? Est-ce que vous préférez rester totalement... anonyme
Je vais rester anonyme, je vais vous dire que j'ai 32 ans aujourd'hui et que je travaille et que j'habite à Paris.
Est-ce qu'on peut dire une profession?
Je suis et journaliste et je travaille en tant qu'attaché de presse et je travaille aussi dans l'écriture de scénarios. J'ai surtout beaucoup baroudé. Voilà.
Aujourd'hui, vous vous retrouvez accusé devant une cour criminelle. 2 jeunes femmes ont porté plainte contre vous. Elles vous accusent de les avoir violées. Elles étaient toutes les deux vos amies, des amitiés commencées à l'adolescence. Elles dénoncent des faits à 2 moments distincts, dans des endroits distincts pour chacune, avec plusieurs mois d'intervalle. Toutes les deux étaient ivres au moment des faits. L'une dormait. Vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle n'était pas consentante. Qu'est-ce que vous dites, vous ?
Il y en a une qui s'exclut de fait, puisque la question du consentement ne s'est pas posée, puisqu'elle je lui ai demandé plusieurs fois si elle était consentante avant qu'on ait ce rapport, puisque c'est même elle qui me l'a demandé. Et je lui ai demandé 3 fois si elle était d'accord, elle m'a dit oui, je lui ai demandé 2 fois encore si elle était sûre de ça. Dans ce cas dans ce cadre d'affaires, oui, c'est en plus c'est parole contre parole, parce que c'est les dires des uns et des autres. Et la deuxième personne, vous disiez qu'effectivement elle était endormie. Les faits qui se sont déroulés, c'est qu'on était alcoolisés, on dormait ensemble. Et le souci, c'est que cette personne ne voulait pas avoir un rapport sexuel. Moi non plus, je ne voulais pas coucher avec elle. Il s'est trouvé que nous sommes retrouvés enlacés à avoir un rapport sexuel. Mais qu'a posteriori, finalement, c'était une mauvaise idée. C'est quelque chose que nous n'aurions jamais dû faire. Et j'ai pensé, j'ai estimé, parce que je suis un garçon de ma génération, que c'est peut-être moi qui avait engagé ce rapprochement. Après, voilà, on était tous les deux au moment où mes souvenirs sont clairs. Nous sommes 2 personnes. Enlacés, en train de nous embrasser, nous caresser. En ces termes-là, la notion de consentement est pour moi acquise.
C'est quoi pour vous le consentement ?
En fait, je vais faire une réponse de Normand. C'est les deux, parce que le consentement, c'est quelque chose de très clair. C'est oui, veux-tu avoir un rapport sexuel, oui ou non ? Est-ce que tu es en capacité, est-ce que ta réponse est influencée d'une quelconque manière? Ensuite, évidemment, il y a toujours ce côté délicat, notamment qui est très très compliqué à mettre en évidence à un moment où on a des caresses, des échanges. Et quand on est avec des gens qu'on connaît, on va pas forcément formuler et il peut y avoir des mésinterprétations. À aucun moment, elles m'ont dit non clairement.
Ces deux jeunes femmes présentent des symptômes de stress post-traumatique. Elles disent que vous les avez détruites. Comment vous réagissez à ces mots?
Ça m'a immensément peiné. Il y a une souffrance derrière ça qui fait mal à beaucoup de gens. On parle évidemment du stress post-traumatique des plaignantes. Moi, j'ai fait la procédure depuis quasiment 5 ans. C'est un enfer. C'est un enfer parce que c'est une remise en question constante de comprendre où est-ce qu'on a merdé, de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer et qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des gens.
Vous avez dit à l'une d'elles, c'est comme un viol, mais vous estimez que vous n'avez pas commis de viol.
J'ai dit c'est comme un viol, ce n'en est pas un. Et malheureusement, la limite est très fine.
Dans quelques heures, vous risquez de partir en détention, les menottes au poignet. Vous risquez 20 ans de réclusion criminelle. Qu'est-ce que vous ressentez?
Enfin, ce matin, j'avais vraiment très très peur.
Mais au fond de vous, vous ne vous sentez pas du tout coupable?
Non, je me sens coupable d'avoir fait du mal à des gens, je me sens coupable qu'on s'est fait du mal. En revanche, je ne suis absolument pas coupable des faits qui me sont reprochés. Et c'est vertigineux. Et la cascade est effroyable. On part de... Nous partîmes d'une ambassade au milieu de la nuit et on en finit à risquer 20 ans de réclusion criminelle à perpétuité. Voilà.
On doit retourner à l'audience pour la fin des plaidoiries de votre avocate de la défense, et puis ce sera le verdict ce soir. L'accusé repart vers la salle d'audience où on ne peut pas rentrer. Fin du procès dans quelques heures avec le verdict qui risque d'être annoncé tard ce soir. Dans la soirée, la cour criminelle rend son verdict, 7 ans de prison. On se met sur ce banc un peu à l'écart de la salle.
Je suis. Robin Binsard, avocat au barreau de Paris, pénaliste.
Dans cette affaire, vous êtes sur le banc des parties civiles, avocat d'une plaignante. Mais il vous arrive régulièrement d'être en défense, avocat d'hommes accusés d'affaires de viol. Est-ce que vous observez que, quel que soit le banc sur lequel vous vous trouvez, d'un côté comme de l'autre, ces affaires sont souvent complexes?
Oui, effectivement, les affaires d'infraction sexuelle sont toujours des affaires extrêmement difficiles parce qu'elles mêlent beaucoup d'humains, beaucoup de souffrances, beaucoup de sentiments et de ressentiments, parce qu'elles sont, par leur nature même, des affaires dans lesquelles la question de la preuve est toujours au centre des débats, et parce que dans un rapport intime, contrairement à d'autres types d'infractions, il n'y a que très rarement des témoins, alors se présentent à chaque fois dans ces débats à l'audience des questions très importantes sur des preuves subjectives, sur des preuves rapportées par des experts, par des confidents, par des médecins. Et ce sont donc des débats extrêmement difficiles, éprouvants, dans lesquels, on le sait, la vérité est parfois plurielle. Parfois, une situation va être analysée comme un viol par une personne. Et l'autre, celui qui sera l'accusé, pourra contester cette qualification en disant que, dans son ressenti des choses et compte tenu du déroulé des faits, selon son analyse, il ne peut pas y avoir de viol parce qu'il n'y a pas d'élément intentionnel. Vous avez sûrement lu l'ouvrage de Karine Thuil, Les choses humaines, qui met, je crois, cette question de la subjectivité et de la perception du récit au cœur de ces dossiers de viol.
Et très souvent, quand vous êtes en défense, j'imagine que vous défendez des hommes qui nient les viols.
Alors d'abord, tous les accusés ne contestent pas les faits. Il m'est arrivé, comme je pense à chaque avocat qui intervient dans ce genre de dossier, parfois aussi d'intervenir pour des hommes ou des femmes qui plaident coupables. Il m'arrive aussi de défendre des individus qui sont coupables et qui contestent. Il m'arrive également, et je le dis fréquemment, et je pèse mes mots, fréquemment, de défendre des individus qui sont accusés à tort. J'ai en tête un dossier dans lequel nous avons établi, grâce à du bornage téléphonique, que celle qui se présentait comme une victime n'avait jamais, jamais, jamais rencontré celle qui est présentée comme l'auteur d'un viol. Cette accusation, c'était une pure calomnie. Eh bien, cet homme-là a pris 18 mois à être innocenté par l'institution judiciaire à l'issue d'une instruction éprouvante. Ces situations-là, elles existent aussi.
Alors, je suis Gwenola Jolicos, je suis magistrate depuis plus de 30 ans et je suis aussi première présidente de cour d'appel, c'est-à-dire que j'assume la gestion et l'animation des tribunaux et cours pour que l'institution fonctionne au mieux au service des citoyens.
Et depuis des années, vous êtes pleinement investie contre les violences faites aux femmes, à la fois dans votre carrière de magistrate, vous avez aussi été directrice de cabinet à un secrétariat d'État des droits des femmes sous la présidence de François Hollande. Vous êtes à 200% sur ces questions depuis longtemps. Est-ce que, Gwenola Jolicos, vous estimez que le consentement est assez bien pris en compte par la loi aujourd'hui ?
Alors, l'institution judiciaire a évolué dans son analyse des situations. Alors, les femmes sont écoutées, elles l'ont toujours été. Elles sont peut-être mieux écoutées, parce que l'on comprend mieux ce qu'elles disent, parce que nous avons les moyens d'analyser leurs propos. Je parle par exemple de l'emprise, de la mémoire dissociative, du psychotrauma.
Est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'affaires parmi celles que vous avez jugées vous-même, pour lesquelles vous avez été confrontée à la parole de l'un contre la parole de l'autre, un manque de preuves, et où peut-être vous, magistrate, vous avez été démunie dans ces dossiers de viol?
Alors, je suis assez opposée à cette notion de parole contre parole. Être magistrat, ça n'est pas simplement écouter l'un, puis écouter l'autre. C'est aussi avoir une analyse de la situation qui vous est présentée. Et je crois qu'il est du rôle de la Cour, non seulement d'écouter, mais ensuite de contextualiser, de comprendre que ça n'est pas simplement une situation qui nous est décrite, mais en réalité, un système. Tout ça est adossé à la culture du viol, au patriarcat, à la domination des femmes. Et c'est ça qui change tout.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Le mouvement MeToo et le procès des viols de Mazan, ces derniers mois, ont relancé le débat. Faut-il, ou non, inscrire le consentement dans la loi française en s'inspirant de la législation d'autres pays ? En Suède, il faut depuis 2018 un consentement verbal ou physique. En Espagne, un rapport sexuel sans consentement explicite constitue un viol depuis 2022 et la loi dite « solo si es si », seul un « oui » est un « oui ». Mais le meilleur exemple, c'est le Canada, avec un consentement défini par la loi qui doit être donné, je cite, « librement et avec enthousiasme, continu, précis, requis pour chaque activité et éclairé ». Des notions martelées à grand renfort de campagnes d'information.
En bref, ce qu'il est important de savoir sur le consentement. Tout le monde a le droit de dire non à n'importe quelle demande, à n'importe quel moment. Même si on a dit oui au début, même si on est nu, même si t'as déjà dit oui une fois, ça veut pas dire que t'as dit oui pour les autres fois. Même si l'autre personne t'achète des fleurs, te paye une sortie ou t'amène dans un champ de pâquerettes avec des pouliches qui jouent de la clarinette.
Bonjour Éléonore Nouel.
Bonjour, donc je suis Éléonore Nouel, je suis chercheuse en sciences sociales et cofondatrice de l'association Sexe et Consentement.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Je vous entends très bien.
Parce qu'il y a l'Atlantique qui nous sépare. Vous êtes au Canada ?
Absolument, à Montréal.
Dans ce pays où le consentement est inscrit dans la loi. Et quand vous vous êtes installée à Montréal, vous avez découvert en fait un autre regard sur le consentement ?
Quand j'ai déménagé pour la première fois au Québec en 2013 pour mes études, en fait, ma réaction initiale, ça a été de dire « Oh, mais je ne vais pas demander la permission à chaque fois que je veux prendre la main de quelqu'un, je ne vais pas signer un contrat à chaque fois que je veux embrasser quelqu'un. » Je me suis rendu compte que ces situations que je trouvais drôles la première fois qu'on m'y a exposé étaient en fait vraiment pas drôles. Et que demander le consentement est absolument essentiel et j'ai pris la mesure en fait de ce que ça voulait dire.
Le Canada est le premier pays au monde à avoir placé le consentement au centre de sa définition pénale du viol. Ça change quoi à vos yeux? Ça change tout par rapport à la France?
Alors, je pense que c'est important de le mentionner parce qu'aujourd'hui en France, le viol c'est juste le fait de pénétrer sans l'accord de la personne, certes, mais avec la notion de violence, de coercion, de menace, de surprise. Placer le consentement au cœur de la définition du viol, pour moi, c'est surtout rappeler que c'est ça l'enjeu principal. C'est pas de savoir comment est-ce que l'acte a été perpétré, comment est-ce qu'on en est arrivé là, c'est de s'assurer qu'on a demandé le consentement. Et en fait, développer un imaginaire positif autour du consentement, développer une culture du consentement pour lutter contre et remplacer finalement la culture du viol.
Pourquoi faut développer un imaginaire autour du consentement? Parce qu'il n'existe pas?
Quand on regarde la plupart des films, des grands classiques, on va dire, on va se retrouver avec beaucoup de scènes où en fait, l'histoire typique, c'est un mec qui va aller draguer une fille et qui va insister, et à la fin, elle va être folle amoureuse de lui. Je pense par exemple à Star Wars, où on retrouve Han Solo qui accule Princesse Leia dans un coin de vaisseau spatial. La meuf, elle est dans l'espace, dans un vaisseau spatial. Elle lui a dit non 15 fois, il la plaque contre un mur, et là, finalement, ils sont amoureux. Je trouve que c'est tellement ridicule comme scénario, et pourtant, c'est ce qu'on retrouve dans énormément de films. Et donc, des scènes où on demande le consentement, où le non-consentement est respecté, ou alors où le consentement enthousiaste est donné, on n'en a pas énormément. On en a de plus en plus, et ça, c'est super. Je pense à des séries comme Sex Education... Mais avant tout ça, je pense qu'il y avait vraiment peu de représentations positives de demander le consentement.
Pour changer les représentations, l'association Sexe et Consentement parle d'abord aux jeunes. Cet après-midi, à Noisiel, en banlieue parisienne, c'est Marine Gianfermi qui discute avec des lycéens autour d'un stand rempli de cartes pop et de préservatifs colorés avec des messages explicites sur le consentement.
Souvent, on nous dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais vous pouvez dire si vous n'êtes pas d'accord, que le consentement, parfois, quand on le demande, ça casse l'ambiance.
C'est vrai que j'ai souvent entendu dire ça.
C'est vrai, je suis d'accord avec ça.
Et vous trouvez que ça casse l'ambiance, du coup, parfois, c'est difficile à demander?
Non, moi, personnellement, je ne pense pas. Enfin, je pense que c'est normal et que c'est nécessaire même.
Les cartes postales qu'on vous propose là sur le stand, c'est des cartes avec des messages de consentement dessus. Donc c'est des messages pour demander le consentement. On va avoir des questions de type « tu te sens comment ? T'as envie de quoi avec moi ?» Donc ça, c'est juste une phrase qu'on peut poser pour demander le consentement. En fait, vous voyez, c'est assez naturel, c'est assez simple à poser comme question. Moi, ma préférée de toutes les cartes postales, c'est « si tu veux plus, on peut jouer à Mario Kart aussi
». Elle est pas mal, oui.
Elle est drôle, non ?
Elle est pas mal.
Bon bah voilà, là on propose une alternative qui est sympa, c'est on peut jouer à Mario Kart, mais ça peut être si tu veux pas, on peut aller manger des frites, on peut aller se prendre un kebab. Et après on a d'autres cartes, comme ça te chaufferait qu'on teste ça ensemble. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on change de position? T'auras envie qu'on fasse quoi toi? Toi tu te sens comment? T'as envie de quoi avec moi? Voilà, des questions assez ouvertes et assez simples à poser, c'était le principe.
Est-ce que vous aviez souvent vu des messages comme ça, les garçons?
On nous a souvent fait de la prévention, mais jamais à ce point-là. Mais ça fait jamais de mal d'en parler.
Pour moi, ce genre de phrase, c'est normal. Et c'est bien qu'il y ait des messages de prévention comme ça.
Vous avez quel âge tous les deux?
Moi, j'ai 17 ans et lui, il doit en avoir 16.
J'ai 16 ans et bientôt 17.
On peut vous demander vos prénoms?
Moi, je m'appelle Arthur.
Je m'appelle Gabriel.
Vous avez des amoureuses ou des amoureux? Pas encore, vous en avez eu? C'est un peu indiscret comme question.
Non, j'ai pas d'amoureux, mais oui, je suis sorti avec une fille il y a quelques années.
Et alors là, c'est des préservatifs particuliers avec des messages aussi autour du consentement.
On a effectivement différents messages qui sont imprimés directement sur le préservatif. Le principe, pourquoi on le fait, ça permet de se rappeler, de poser la question juste avant d'entrer dans des actes intimes. Mais ça permet aussi de recentrer la relation sur la question du consentement. Nous, en tant qu'association, on porte d'ailleurs un plaidoyer qui consiste à rendre obligatoire des mentions légales relatives au consentement sur les produits de vie intime et sexuelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, sur les préservatifs, mais aussi sur les publicités des applications de rencontres.
Honnêtement, je préfère ça que juste des préservatifs où il y a écrit la marque en gros. En plus, ça nous force à réfléchir et à demander à l'autre aussi si elle est d'accord, oui ou non. J'aime bien le bleu où il y a écrit « t'as demandé avant » parce que c'est... c'est explicite. On sait comme ça, direct, on doit demander avant de l'ouvrir. Celle-là aussi, elle est pas mal. Sans oui, c'est non. Parce que si la personne n'a pas dit oui, bah pas de consentement. Et du coup, on l'ouvre pas non plus. Après, je sais pas ce que t'en penses, toi.
Moi, je suis complètement d'accord avec lui. En fait, enfin, par rapport aux droits des femmes, par exemple, c'est des questions qui évoluent encore et qui ont évolué au fil du temps. Mais ça se fait pas comme ça. C'est des choses qui changent avec les générations, enfin, les normes de la société et autres. Mais oui, moi, je suis persuadé que plus le temps va passer et plus on va tendre à ce que le consentement, ça aille de soi, comme j'aimais dire tout à l'heure, et que ça soit quelque chose de normal.
Jamais sans mon consentement, c'est un reportage de Sophie Parmentier, prise de son Thomas Robin, réalisation Gaëtan Colli, attaché de production Martine Messonnier, mixage Cédric Chatelus.
Je veux dire merci à France Inter d'être venu nous questionner sur ça.
Et on peut voir la radio sur la télé.
Bah non, c'est la radio.
Et cette émission de radio, vous la retrouvez en vous abonnant au podcast d'Interception sur l'appli Radio France.